L'heure des informations, Laetitia Gaillet.
On l'apprend à l'instant, une perquisition est en cours chez Isabelle Prévost-Després. La juge est visée par une information pour violation du secret professionnel dans le cadre de l'affaire Bettencourt. Dans le livre Sarko-Mathieu, Isabelle Prévost-Després fait état de deux témoins qui ont parlé hors procès verbal de la remise d'espèces à Nicolas Sarkozy par l'entourage de la milliardaire en 2007. 9 mois après la chute de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le président ivoirien est en visite en France. Une visite où l'on a mis les petits plats dans les grands, ça commence cet après-midi avec une arrivée à Orly et une réception assurée par le ministre de la Défense, Gérard Longuet. Un symbole quand on sait le rôle joué par l'armée française dans son arrivée au pouvoir. Demain, Alassane Ouattara sera reçu par Nicolas Sarkozy avant un dîner d'État. Paris et Abidjan doivent aussi signer un nouvel accord de défense. En Espagne, on redoutait avec l'arrivée des conservateurs au pouvoir la remise en cause de certains acquis comme le mariage homosexuel ou encore la légalisation de l'avortement. Et bien sûr, ce dernier point, le ministère de la Justice du gouvernement de Mariano Rajoy annonce aujourd'hui qu'il va réformer la loi sur l'avortement. Il s'agit notamment d'obliger les mineurs à obtenir l'autorisation parentale avant une IVG. On ne sait pas pour l'instant si d'autres points de la loi seront modifiés, ni quand la réforme sera présentée au Parlement espagnol. Retour en France, le rapport accablant de l'autorité de sûreté nucléaire sur la centrale du Civaux dans la Vienne après la découverte de fuites de tritium dans la nappe phréatique. Le document de l'ASN a été mis en ligne aujourd'hui et il met donc en évidence une attention insuffisante au risque de contamination à l'intérieur de la capacité de rétention. Des fissures ont par exemple été détectées dans le béton. Jean-Luc Courcel, le patron d'Areva, lui a été entendu ce matin par 2 députés socialistes chargés d'une mission d'information sur le géant du nucléaire. Le rachat de la société Uramine du temps d'Anne Lauvergeon et qui est à l'origine du scandale qui secoue Areva a été évoqué. D'après une source proche du dossier, Jean-Luc Courcel a expliqué qu'Areva connaissait les risques sur la qualité des gisements d'Uramine, mais elle les a cachés à l'État. Areva, cet après-midi, a démenti les propos de Jean-Luc Courcel. 4 dirigeants de Subdeco Amiens comparaissent depuis ce matin devant le tribunal correctionnel d'Amiens. Ils sont poursuivis pour harcèlement moral à l'encontre de plusieurs salariés après le suicide d'une ancienne directrice. Les faits remontent à 2009. Appelé à la barre pour témoigner, un inspecteur du travail a déclaré ce matin à l'audience « Je n'ai jamais vu autant d'éléments caractérisant le harcèlement dans une entreprise ». Et il s'appuie pour ça sur les interrogatoires de 45 salariés, soit environ la moitié du personnel. Les 4 dirigeants de Subdeco qui sont poursuivis, risquent 1 an de prison et 15 000 euros d'amende. Apple, sans Steve Jobs, ça marche. Le groupe informatique américain a annoncé hier soir des bénéfices et des ventes records pour le premier trimestre de son exercice décalé, c'est-à-dire entre octobre et décembre dernier. L'iPhone 4S tire les ventes vers le haut, 37 millions vendus sur cette période, soit un bond de 128% sur 1 an. Vous écoutez France Inter, 15h03.
La guerre d'Algérie questionnée par 2 cinéastes des 2 côtés de la Méditerranée.
Et un jour, les gendarmes sont venus à l'usine nous chercher, quoi, en me disant, bon, on nous donne le feu, quoi. J'avais vraiment pas envie d'y aller.
Invité Malek Bensmaïl et Bertrand Tavernier, au cœur d'un cycle organisé par le Forum des images à Paris.
Il y avait beaucoup d'ouvriers dans votre cas ?
Il y avait un autre copain qui travaillait avec moi à côté, qui a été tué en Algérie, d'ailleurs. C'était mon plus proche copain.
Le cinéma, c'est le samedi à 10h.
Avec Christine Masson.
Et Laurent Delmas.
France Inter, la différence.
Allez hop, c'est l'heure de la Bassie, j'y suis avec Daniel Mermet.
Bonjour à tous. Nicolas Sarkozy nous fait savoir qu'il arrêtera la politique après une défaite. Pas encore candidat et déjà des promesses. C'était Guillaume du Tarn-et-Garonne.
Vous avez été scandalisé par le vote du Sénat, moi aussi, comme de très nombreux citoyens français. Non, il ne s'agit pas de la Turquie, quoique cela pourrait concerner des mamans turques en France. Non, nos vénérables sénateurs veulent interdire aux assistantes maternelles, les nounous, de porter le voile chez elles. Oui, vous avez bien entendu, chez elles, à la maison. Et le comble, c'est que l'initiative de ce projet de loi, voté jeudi dernier, tard dans la nuit, est l'œuvre d'une sénatrice radicale de gauche, Madame Laborde, soutenue par le PS en tête et le PC. Une aussi flagrante atteinte aux libertés individuelles mérite une résistance citoyenne. Merci, bonne journée à tous.
Salut, si vous pouviez dire à M. Fortunéo que sa carte bancaire gratos, c'est 80 euros offerts, etc., 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 on s'en tape, quoi. On n'en est plus là. Ça devient insupportable. Il y a des pubs qui sont niaises, quoi. Les deux baltringues qui nous chantent la matmute, etc. Enfin, je veux dire, bon, voilà, si c'était pas aussi comique, ça ferait pleurer. Mais là, la banque, là, c'est bon, quoi. Le mec qui aime sa banque et tout. C'est insupportable. Insupportable, quoi. Je n'en peux plus de cette merde. Ils commencent à nous gonfler, les banquiers, à nous courir après. Ils nous ont pourri l'existence et maintenant ils nous pourrent le bruit. Je t'offre la carte bancaire. Je les hais.
Les députés Front de Gauche ont déposé début janvier une proposition visant la création d'une commission d'enquête chargée d'examiner la dette publique. Les élus entendent relayer la demande citoyenne qui s'exprime en faveur d'un audit public sur la dette. Régis de Nîmes.
Bonjour, je viens d'écouter l'émission L'Arménie, ce témoignage bouleversant. Je me souviens de l'avoir entendu il y a 15 ans, ou pas loin, cette émission, comme quoi je suis un auditeur fidèle, occasionnel, parce qu'il y a la vie et qu'on ne peut pas passer sa vie à écouter la radio, mais fidèle. Et là, vraiment, ces deux voix, la voix jeune et belle et douce, on la devine pleine de vie, désirable, de Zoé Varier. Et puis face à elle, cette autre voix, cette vieille dame magnifique, ses intonations, ses trouvailles verbales, c'était vraiment magnifique. Parfois ce que vous faites, c'est beau comme une grande page de musique. C'est une émotion qui nous élève un peu, qui nous rend peut-être meilleur, je sais pas. Moins con, sans doute. Bravo à tous. Continuez. Et merci.
J'habite l'ex-gros bourg de Fillon, Sablé-sur-Sarthe. C'est bien loin de l'Estac, mais quand je vais à Marseille, j'essaie déjà de faire partager à ma petite fille Lison, qui a 3 ans, les quelques belles et bonnes choses de la vie que j'ai pu voir et goûter depuis 59 ans. Ce matin, Lison a eu un petit frère, Victor. Et cette nuit, l'idée me vient que le moment venu, le moment choisi, pas trop tôt bien sûr, je leur parlerai aussi des beaux hommes comme Louise Michel, Nelson Mandela. Mais aussi, c'est l'actualité du Sénat aujourd'hui qui m'y fait penser, peut-être encore plus tard car c'est dur, je leur parlerai aussi des sous-hommes comme Staline, Pinochet, Pol Pot, Franco et bien sûr Hitler. Pour qu'ils découvrent donc la beauté du monde et des gens, mais aussi jusqu'où peuvent aller des pans entiers d'un peuple en suivant ces ignobles personnages. Je leur présenterai le temps venu l'ethnocide des Amérindiens, l'abomination de l'esclavage et bien sûr comme ultime exemple symbolique de l'horreur absolue, la mise en œuvre, la planification, l'exécution méthodique de la solution finale. Mais cette nuit, une question me taraude. Même s'ils étaient beaucoup moins nombreux, pourquoi parle-t-on si peu de l'extermination des Tziganes ? Aux mains des nazis, ils, elles, ont vécu aussi l'indicible cauchemar décrit par Primo Levi. Je pose la question. Monsieur Sarkozy, si c'est un homme, le Rhum n'a-t-il pas les mêmes droits mémoriels que l'Arménien ? Allez, ciao, nono de Sablé.
Eh bien, croyez-le ou non, je suis dans une famille Rhum, pas très loin de Budapest, et on vient, il y a quelques instants, de parler des liens entre les Roms, la communauté Rhum et les Juifs de Hongrie. Parce qu'actuellement, il y a dans ce pays un parti qui s'appelle le Jobbik, qui est un parti ouvertement antisémite, ouvertement anti-Rom, et qui prend de plus en plus de place, et qui a un lien extrêmement étroit avec le parti au pouvoir, celui de Viktor Orban. En tout cas, on ne sait pas ce que deviendra M. Sarkozy s'il se retire, mais on pourrait lui suggérer de revenir dans ce pays où il pourra donner libre cours à sa manière de considérer les Roms comme il l'avait déjà exprimé à Grenoble avec une certaine retenue. Aujourd'hui, dans la base où j'y suis, Karl Marx. Oui, notre invité du jour, Karl Marx. Pourquoi Karl Marx ? Parce qu'à chaque fois que la crise se durcit, les ventes des livres de Karl Marx augmentent. Et on voit de plus en plus de marxistes. Jacques Attali, Alain Minc se proclament marxistes. Et c'est contre ce risque de banalisation médiatique que l'ami Daniel Ben Saïd a publié il y a 3 ans maintenant, Karl Marx, mode d'emploi, avec de superbes dessins de Charbes, pour essayer de faire entendre ou de donner envie de mieux connaître celui qui voulait semer des dragons. Oui, Karl Marx, c'était son but de semer des dragons. Voilà notre sujet du jour. Karl Marx, mode d'emploi, première partie, évidemment en hommage à Daniel Ben Saïd qui a disparu il y a peu de temps, en janvier 2010. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37 et la Chaudrome.
Bonjour à tous, j'appelle en fait pour savoir si on entendra parler de nos voisins allemands un petit peu aujourd'hui, parce que ça fait quand même un petit bout de temps là qu'on nous dit de prendre exemple sur eux, que c'est vraiment leur politique, la politique est adoptée pour toute l'Europe, rigueur, rigueur, rigueur. Et hier, l'Organisation internationale du travail, dans un rapport, a posé une question qui m'intéressait, à savoir que c'est peut-être les Allemands et les bas salaires allemands qui causeraient des troubles et qui aggraveraient la crise européenne. Voilà, moi j'espère qu'on va en entendre parler aussi comme ça de l'Allemagne, histoire qu'on sache tout. Voilà, c'était Gabriel de Lyon. Allez, ciao.
Bonjour à toutes et à tous. Ce soir, on se réunit à Tours pour le Café Repère. Ça se passe à 20h chez Arnaud au Délice Café. Eh bien, en espérant vous y rencontrer. Voilà, bye bye.
Oui, bonjour. C'est Mohamed de l'Association des travailleurs maghrébins de France. C'était une information pour votre émission concernant les discriminations faites aux Chibani, les vieux immigrés au niveau de la France et le traitement qui leur est réservé, y compris dans les pays d'origine. On organise un séminaire avec les concernés, les collectifs qui les soutiennent en France et en Europe, les témoignages, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est le 4 février de 14 à 19h à Paris. De 14h à 19h. Et comme on nous a dit que Daniel Mermet s'intéressait à ce sujet, donc faites passer l'information, s'il vous plaît, et merci.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec Daniel Ben Saïd, Marx, mode d'emploi.
Flight number 2, arriving from New York.
Il a depuis longtemps révélé comment un capitalisme débridé peut agir à la façon d'un mythe, attribuant réalité et pouvoir à des choses qui n'existent pas par elles-mêmes. De qui parle-t-on ? Question. Et qui parle ? De qui parle-t-on ? Eh bien, on parle d'un certain Marx, Karl. Je répète la phrase, il a depuis longtemps révélé comment un capitalisme débridé peut agir à la façon d'un mythe attribuant réalité et pouvoir à des choses qui n'existent pas par elles-mêmes. Et qui parle, eh bien, c'est, vous aviez trouvé, l'archevêque de Canterbury. Ça commence très très fort, ça commence très très fort et c'est très intéressant de commencer par là, je trouve, parce que ça raconte que Marx intéresse beaucoup, beaucoup de monde aujourd'hui et que Marx est de retour. Voilà pourquoi on se retrouve avec Daniel Ben Saïd, qui est l'auteur de ce Marx mode d'emploi aux éditions Zone, avec des dessins de Charbes. Et la couverture dit l'intention générale du bouquin, Marx est mort, ha ha ha, les cons, et celui qui dit ça en cavalant, c'est Marx lui-même. Et c'est vrai que ces temps derniers, on a vu des gens comme Jacques Attali saluer Marx, même écrire beaucoup sur Marx, et on a vu quelqu'un comme Alain Minc se prétendre le dernier marxiste français à certains égards.
À certains égards.
Daniel Ben Saïd, comment expliquer ce retour de Marx ? Le spectre est de retour.
Oui, bah, y a une actualité éditoriale qui ne fait que concrétiser l'actualité de sa critique des sociétés contemporaines. C'est pour ça que ce retour, quand et comment, ça, personne n'aurait pu le prédire, mais en revanche... Il n'y avait pas tellement de doutes pendant les années de disgrâce, justement, parce que la couverture que vous venez de citer, c'est une...
Rebelle infatigable, esprit libre, vagabond ou nomade, si tu penses que mon écrane, appelle-moi camarade.
Alors, est-ce qu'on peut commencer par faire un peu un portrait du bonhomme Marx, qui est complètement inscrit dans le 19e siècle, hein. Il va être témoin des grandes charnières du 19e siècle européen. En Allemagne, France et Angleterre, mais il va être le penseur de la révolution industrielle, malgré tout.
Oui, alors bon, il y a une chose que je voudrais signaler quand même, parce qu'on est toujours un peu prisonnier des images, et on a toute l'iconographie du Marx barbu, imposant, et d'ailleurs comme il prenait les photos à l'époque, en pose, devant des tentures, etc. Ce qui brouille un peu l'idée que c'est d'abord lui et Engels, qui est beaucoup mieux qu'un comparse. Hein. J'aime bien un peu réhabiliter Engels, qui est un type beaucoup plus sympathique humainement d'ailleurs que Marx. Joyeux buveur, farceur, caricaturiste, etc. C'est des jeunes gens au cœur de la tourmente européenne d'une Europe en fusion dans les années 1840-48, etc. Et c'est d'abord des jeunes hommes révoltés et qui commencent à chercher les raisons de leur révolte et à trouver une expression rationnelle à leur révolte. Alors par ailleurs, effectivement, Marx est un peu celui qui a déchiffré les hiéroglyphes de la modernité, étant au cœur de Londres, au moment où se produit la première mondialisation et où le développement du télégraphe, de la navigation à vapeur, l'explosion du chemin de fer sont les équivalents pour les transports et les communications de notre révolution Internet, avion supersonique. On a, pareil, la création du crédit, l'explosion du crédit et du phénomène bancaire. Hein, c'est l'époque où la bourse devient l'ébauche de ce qu'elle est aujourd'hui, avec les scandales financiers traité par Zola dans l'argent, etc., mais que Marx est déjà témoin de l'écroulement du crédit immobilier sous le Second Empire, donc les phénomènes spéculatifs qui jouent par derrière l'autonomie de l'argent, les scandales, l'agiotage, etc., et puis le début aussi de la grande consommation, pas de masse telle qu'on la connaît aujourd'hui avec Walmart et compagnie, mais c'est le début des grands magasins, les expos universels, c'est les vitrines de la marchandise, la transformation de la ville. Bon, on a toute une séquence, en gros, qu'on pourrait dire la première ou la deuxième, peu importe, mondialisation, qui préfigure, qui est une sorte de préface à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, je crois qu'on a deux époques qui entrent en résonance, qui dialoguent parfaitement. C'est pour ça que le monde dont parle Marx nous parle plus qu'on ne l'imagine. C'est pas la visite à une espèce de sanctuaire. Non, c'est une sorte de dialogue d'un siècle à l'autre, de deux siècles à l'autre.
Marx et Engels, puisque vous les rapprochez tout de suite, vont beaucoup parler des prolétaires, mais ils ne sont pas des prolétaires. Marx a pour père un avocat qui est d'une famille, vieille famille de rabbins, hein, c'est
oui,
ça
oui.
Qui se convertit pour pouvoir faire son boulot d'avocat. Oui. Il est obligé de se convertir au protestantisme. Quant à Engels, c'est un fils d'une bonne famille, oui. d'une entreprise de négociants de Manchester. Voilà, c'est pas des prolos au départ, ni l'un ni l'autre.
Non, ils font partie de cette génération intellectuelle qui ont espéré, dans leur bouillante jeunesse, que l'Allemagne connaîtrait les transformations consécutives à la Révolution française et qui se trouvent devant une époque, au contraire, de régression, de fermeture, de restauration, et qui sont déçus par la couardise, surtout, ou l'inconsistance de la bourgeoisie allemande, qui est une mosaïque de petits États dont la Prusse est le principal à l'époque. L'Allemagne n'est pas unifiée, il faut quand même le rappeler. Donc c'est des jeunes révoltés qui sont déçus par le fait que la bourgeoisie allemande est incapable d'entreprendre ce qu'ont fait les Jacobins en France, etc. Et qui, du coup, cherchent ailleurs des forces motrices, des forces porteuses pour transformer cette société bloquée et qu'ils la trouvent dans les germes du prolétariat naissant, tel que le découvre aussi, et qui est un peu leur précurseur, Heinrich Heine, qui les devance à Paris, qui s'exile lui aussi volontairement à Paris pour aller à la rencontre d'une capitale moderne et qui rencontre là une classe ouvrière, enfin l'ébauche d'une classe ouvrière moderne.
À partir de quand on commence à parler du communisme ? Puisqu'ils vont être les auteurs, évidemment, du fameux manifeste.
Ben c'est dans ces années 1830. Bon, on peut dire que l'idée remonte plus ou moins, elle est dans l'air avec Babeuf, etc. Donc, mais à l'époque, ce qui est marrant d'ailleurs, c'est que l'idée socialiste est déjà... Les socialistes, c'est un peu la critique bien-pensante, qui a une certaine reconnaissance... Alors que le communisme, c'est vraiment les barbares sous les murs de la cité. D'ailleurs, c'est dans un prolétariat immigré. Il y a à l'époque, je crois, à peu près 70 000 ouvriers allemands à Paris. L'immigration, elle n'est pas maghrébine, à l'époque, elle est allemande. Et ils sont cordonniers, tailleurs...
Charpentiers.
Et c'est dans les tavernes où se réunissent ces cercles, surtout de travailleurs allemands, que germent ces idées-là. Et où Heine, qui va être lié pendant quelques années très étroitement à Marx, découvre que devant cette espèce de société pourrissante, de l'enrichissez-vous, de Guizot, etc., monte en puissance une nouvelle figure de révolte, qui sont les prolétaires. Et bon, mais cette découverte, elle est dans l'air du temps. Dans Le Peuple, que Michelet publie en 1846... Michelet aussi sent, il dit d'ailleurs très joliment qu'en moins de 50 ans, la bourgeoisie a jeté le masque et que finalement, Michelet, qui vient lui d'un milieu populaire, à la différence de Marx, sent monter ces nouveaux barbares. C'est le texte, Le Peuple, est un des premiers textes de sociologie de la société française, est magnifique.
C'est la lutte finale, gros pour nous, et demain, l'internationale sera le genre.
Marx, Engels sont toujours présents, mais ils ont pour contemporains d'autres penseurs. Là, vous évoquez le socialisme, mais il y a d'autres penseurs. On a Proudhon, on a Bakounine, on a toute une série de jeunes gens à l'époque qui essayent aussi de penser l'époque et de penser contre la domination de cette bourgeoisie.
Ah oui, il ne faut pas être anachronique. On est dans une époque, d'ailleurs jusqu'à et inclus la Commune de Paris, hein, donc sur une séquence d'une trentaine d'années, qu'on peut appeler de fermentation utopique ou révolutionnaire, les deux d'ailleurs. Mmh. J'avais un bon maître oublié, Henri Lefebvre, qui disait c'est le sens non pratique du possible, c'est-à-dire, vous avez cité des noms, mais chez Cabet, chez Fourier, qui sont encore un peu plus tôt d'une certaine manière, à quelques années près. Bon, c'est essayer d'imaginer une société différente, sens non pratique du possible, à une époque où on ne voit pas encore comment l'atteindre, quelle force pourrait finalement donner corps à ces hypothèses, à ces rêves, à ces idées, les rêves des prolétaires, de la nuit des prolétaires dont parle également Rancière. Donc on est dans cette période-là. Et là, il serait totalement anachronique de croire que les idées géniales de Marx ont été d'emblée triomphantes ou majoritaires. Non, c'est un courant.
C'est un courant parmi tout cela.
Parmi beaucoup d'autres, y compris quasi minoritaires, même dans la Première Internationale.
Comment Marx devient-il communiste ?
Engels a précédé Marx, hein, là-dessus. Il est plus jeune de 3 ou 4 ans. Engels, très tôt, lui, s'est déclaré communiste. Bon, à une époque où Marx, qui dirigeait à l'époque un journal libéral, au sens libéral de l'époque, c'est-à-dire un journal démocrate en réalité, qui était la Gazette Rhénane, précisément en Rhénanie, c'est pas par hasard, comme la Rhénanie avait connu les réformes de la Révolution française, il y avait une culture plus démocratique, protestataire, il a été le rédacteur en chef de ce journal en 1842-43, et il a exploré là les limites d'abord des libertés, de la tolérance du régime en Allemagne. C'est-à-dire que le journal a été interdit en 1943 et ça a été le déclic de son exil volontaire, là pour le coup, en France, où il dit « mais bon, là, on étouffe dans ce pays qui cuve son jus, etc. » Paris est la capitale du monde aujourd'hui, c'est aussi la capitale des idées révolutionnaires. Il faut aller y voir. Mais à ce moment-là, quand les gens lui disent le communisme et tout, il y a des lettres où il dit « attention, il y a beaucoup d'idées fumeuses là-dedans, il faut y réfléchir à deux fois ». Et puis, il y a la découverte des limites donc, de la modernisation bourgeoise en Allemagne et dans le monde. Et la rencontre du prolétariat, qui est d'abord une idée philosophique, hein, c'est l'idée où est la force capable d'accomplir ce que la bourgeoisie est incapable de faire. Voilà. Et là, dit, bon, les prolétaires, parce qu'ils ont que leur chaîne à perdre, sont ceux qui mèneront la révolution jusqu'au bout.
Mais enfin, ça veut dire quand même que la révolution ne se fera pas par le haut, elle se fera par le bas.
Ah ça, mais ça, la formule qui est presque devenue une maxime, l'émancipation des travailleurs se relève des travailleurs eux-mêmes. Non, Marx, contrairement justement à une image qu'on a souvent...
Mais c'était pas si simple à l'époque. Maintenant, effectivement, la formule nous semble évidente, mais à l'époque, c'était pas une évidence que la révolution viendrait. Les grandes transformations ne peuvent venir que par la base, comme par le peuple.
Oui, il y a quand même derrière l'expérience de la Révolution française, hein, qui a marqué avec l'expérience quand même du mouvement populaire, de la sans-culotterie, etc. Mais c'est important parce que Marx a souvent, malheureusement, vu les péripéties historiques, associé une figure très étatiste, autoritaire. Fondamentalement, aujourd'hui, Marx apparaîtrait surtout comme un libertaire, hein, parce que ce soit ces formules-là sur l'auto-émancipation, en réalité... ou sa position sur la Commune de Paris et sa conception plus ou moins de ce que pourrait être le socialisme comme une commune de communes, il n'est pas du tout jacobin là-dessus, Marx, contrairement à ce qu'on imagine. Hein. C'est une pyramide de communes, un pouvoir décentralisé, les gens décident, etc., la révocabilité, les mécanismes de contrôle démocratique. Il n'est pas non plus un homme de parti. Hein. J'ai fait un chapitre pourquoi Marx et Engels sont des intermittents du parti. Ils disent, le parti, c'est utile quand on est en situation d'effervescence, mais dans les autres périodes, ça devient des nids d'intrigue, de mesquinerie, on s'emmerde avec des cons, on perd son temps, etc. Donc ils ne sont pas du tout fétichistes de l'organisation. Mais cette idée part en bas. Et alors, le malheur de Marx, c'est qu'il a souvent été confondu, ce qui le met dans des colères noires, avec Lassalle, qui est un autre des fondateurs du mouvement ouvrier allemand, et notamment du Parti socialiste allemand. Ils ont été amis, se sont visités, ils se connaissent bien. Lassalle est un personnage pittoresque qui est mort en duel pour une histoire de jupon. Mais Lassalle, lui, a l'idée, effectivement, d'un socialisme étatique, c'est-à-dire un État organisateur, planificateur, qui hérite des traditions d'organisation allemande, voire prussienne, alors que Marx, pas du tout. Et quand il est furieux avec les socialistes, après les socialistes allemands, à propos du programme sur lequel ils se sont unifiés en 1975, parce qu'il trouve ce programme beaucoup trop étatiste, et il dit, voilà, on va me confondre avec Lassalle, Bakounine va en profiter pour me traiter. Et donc il se bat sur deux fronts, en réalité, hein, contre l'anarchisme version Bakounine, à qui il reproche, ça peut paraître paradoxal, ce qu'il lui reproche fondamentalement, c'est d'être antidémocratique. C'est que le putschisme, c'est j'impose ma volonté, il n'y a aucune instance là-dedans d'arbitrage démocratique. Le refus de toute autorité finit par être antidémocratique.
Alors que l'image de Marx aujourd'hui, ce qui est resté, c'est Marx égale État centralisé. On pense tout de suite, on ne peut pas décoller tout à fait l'image de Marx de l'image de l'Union soviétique. Ben, oui. Cette succession de profils.
Voilà, c'est
Marx Engels,
la généalogie là des broches. Des médaillons soviétiques fait que bon, ben, le pauvre, il a été associé à ce qui n'était pas... À Lénine, on peut discuter, ben, c'est autre chose. Mais justement, non, chez Marx, c'est une culture populaire, critique et très peu institutionnelle en réalité.
L'homme veut manger du pain, oui. Il veut pouvoir manger tous les jours du pain et pas de mots ronflants, du pain et pas de discours. Marchons au pas, camarades vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. L'homme veut avoir des bottes, oui. Il veut avoir bien chaud tous les jours, des bottes et pas de boniment, des bottes et pas de discours. Marchons au pas, camarades vers notre front, range-toi dans le front.
ne veut pas de matraque ni de prison. Il veut des hommes, pas des parias, des frères et pas de patron. Marchons au pas, camarade vers notre front. Range-toi dans le front de tous les ouvriers avec tous tes frères étrangers. Tu es un ouvrier, oui, viens avec nous, ami, n'aie pas peur.
On continue avec Daniel Ben Saïd, Marx, mode d'emploi aux éditions Zone. Mode d'emploi, oui, un emploi pas forcément si évident que ça, si on veut bien faire l'effort de redécouvrir ou de découvrir tout simplement Marx, sous tous les clichés, les idées reçues et tous les avatars et les insultes du temps. Alors, la grande affaire, évidemment, ce sera en 1848, la publication du manifeste du Parti communiste signé Marx et Engels. Ils sont très jeunes à l'époque, les deux oiseaux.
Il a à peine 30 ans, quoi. Mm-hmm. Engels doit en avoir 26 ou 27. Oui, c'est des jeunes gens, c'est des jeunes gens. Et là, c'est le passage. Vous demandiez tout à l'heure, bon, il y a une maturation. Et là, ils sont devenus des militants de l'idée communiste, puisque c'est eux qui proposent que cette société à laquelle ils ont adhéré, qui s'appelait la Société des Justes, qui trouvait dans le titre et dans le contenu plutôt baigné d'humanisme, des Lumières, etc. Et là, il faut faire un pas de plus, appeler un chat et l'organisation communiste et la doter d'un programme, pas au sens d'un programme de gestion comme on l'entendrait aujourd'hui, mais qui est plutôt une vision de l'histoire, des contradictions de la société, parce qu'en termes de programme, il y a 10 points généraux qui, presque tous d'ailleurs, reviennent à contester le pouvoir de la propriété privée.
Mais cette Ligue des communistes à l'époque, elle a quelle importance, elle a quelle influence, elle est connue de qui? C'est un groupuscule d'intellectuels, comme on disait pas, puisque ce mot n'existait pas, mais au fond de bistrot fumeux, ou bien ça intriguait, ça intéressait.
Alors là, il y a un point d'histoire, il faudrait voir, je pense que les documents existent, moi je serais prudent parce que je ne suis pas historien, ça m'intéresse, mais je pense que ça tient des deux. Il y a des cercles conspiratifs parce qu'on est dans une transition, il ne faut pas non plus avoir en tête que quand ils font manifeste du Parti communiste, puisque c'est le titre exact du manifeste, on a tendance à imaginer par parti les partis tels qu'ils existent aujourd'hui. À l'époque, parti, c'est plutôt un courant de pensée autour d'un journal. Il faut penser qu'il n'y a pas d'institution parlementaire tellement stabilisée. La plupart sont pas légaux. Donc, il y a le côté, c'est une transition, finalement, entre les sociétés secrètes et les partis modernes. Voilà, c'est à la charnière des deux. Du coup, on a les deux phénomènes. Il y a des cercles qui sont composés d'intellectuels ou d'ouvriers autodidactes, hein, beaucoup. Hein. Faut pas non plus croire que l'époque, les universités étaient pas si massives que ça. Vous avez tout un tas de portraits, les gens dont Rancière d'ailleurs a parlé dans La Nuit des Prolétaires, etc., qui sont des ouvriers autodidactes. Bon, il n'y a pas le côté cooptation par le système scolaire, donc les gens, voilà, ils lisent, ils apprennent. Donc il y a ces cercles-là, qui sont des cercles semi-conspiratifs. Et puis, il y a un écho des idées, là, qui semble réel. Quand, au moment de la Révolution de 48, Engels repart faire le coup de feu en Rhénanie, précisément, il dit, bon, les communistes de Cologne sont 8000. Bon, 8000 à l'époque, alors, il n'y a pas de statistiques fiables. Hein, ça doit être beaucoup plus nébuleux, il ne faut pas compter la remise des cartes et le paiement des timbres. Bon, donc, c'est plus un mouvement hein, qu'un parti au sens. Mais ça fluctue entre les deux. Il y a un noyau assez conspiratif organisé. La Ligue des communistes, c'est un réseau d'organisations. Ce n'est pas une organisation nationale. Hein, c'est une petite internationale qui existe en Belgique, en Angleterre, en Allemagne et en France. On s'organise d'emblée. L'idée n'est pas des partis nationaux. Hein, c'est d'emblée, en fait, un mouvement qui est européen, au moins.
Et c'est cette Ligue des communistes qui demande à Marx et Engels ce texte.
Qui lui revient de ce texte. Alors Marx traîne un peu, il se fait secouer les bretelles parce qu'il devait le donner en décembre 47, pas tout à fait prêt. Je crois qu'il le remet en janvier 48. Et puis, quand les premiers exemplaires imprimés paraissent, c'est la révolution de février en France. Avec la précision que le texte paraît en allemand, mais qu'il faudra attendre plus de 30 ans pour qu'il soit traduit en français. Il ne faut pas imaginer que les gens lisaient le manifeste communiste sur les barricades de juin 48.
Ça veut dire que ça sera publié en français après la Commune de Paris.
Après la Commune et aux États-Unis, en 72, je crois.
Quelle a été, à l'époque, l'influence de ce texte, sa vie, sa portée? On sait que c'est un des textes les plus lus au monde.
C'est devenu un des textes les plus lus parce qu'il a eu, après les grandes machines éditoriales, bon, il suffit qu'il y ait l'édition des éditions de Pékin, bon, ça fait exploser
bien sûr.
Bon, non, à l'époque, le texte a circulé assez modérément. Je ne suis pas sûr que le manifeste ait été à l'époque le texte le plus connu de Marx. Hein. En français, c'est peut-être peu connu, mais par exemple, était certainement plus connu Misère de la philosophie et sa polémique avec Proudhon. Qu'il a écrite en français, ce qui est assez remarquable, parce que c'est du très bon français. Si je pouvais écrire l'allemand comme ça...
Mais ce qui est stupéfiant avec le manifeste du Parti communiste, encore une fois, il ne faut pas confondre ce Parti communiste-là et le Parti communiste français, par exemple, bien évidemment, il faut bien détacher ces deux notions. Il y a des passages absolument stupéfiants de modernité, enfin, sur ce qui se passe aujourd'hui, oui, bien sûr, la crise, le libéralisme, l'exploitation, etc., c'est...
Mais ça, je crois que c'est le point extrêmement fort de Marx. Un texte qui est très court, qui est une brochure, finalement, le manifeste du Parti communiste. Vous n'avez pas seulement une description, ce qu'aujourd'hui ferait un journaliste raisonnable, de la mondialisation, mais il y a à la fois la description de ce dynamisme de la société qui s'industrialise, qui se transforme, qui s'urbanise, etc. Mais il y a en même temps la recherche d'une explication théorique à ce dynamisme-là. Ça, ce que font beaucoup moins nos gazettes aujourd'hui, c'est de découvrir quel est le secret de ce dynamisme. Et ça nous amène du manifeste au Capital, c'est-à-dire, derrière, il y a le besoin du Capital d'aller toujours plus loin, toujours plus vite. Donc, d'élargir d'abord sa surface de captation de la marchandise. Donc, la logique de la mondialisation, elle est presque dans le gène du Capital, pour Marx. Il doit toujours repousser ses frontières et toujours, finalement, englober, dévorer à son système de nouveaux espaces. Donc, réellement se mondialiser. Donc, il y a l'idée de la mondialisation, elle est dans le manifeste communiste de manière éclatante, jusqu'à l'idée que l'humanité, biologiquement, c'est une espèce universelle. Maintenant, socialement, elle ne deviendra universelle qu'à travers justement la mondialisation des échanges, jusqu'il le dit, à la création d'une littérature universelle. À l'époque, c'est inimaginable. Aujourd'hui, on a en livre de poche la littérature africaine, japonaise, les traductions, etc. Donc, il y a cette idée-là. Et puis, l'idée de l'accélération, c'est que le Capital, pour résister finalement à sa dévalorisation, est obligé d'accélérer en permanence son mouvement, de tourner toujours plus vite, etc. Et c'est ça qui sous-tend le sentiment vulgaire commun que vous avez, que nous avons, derrière la formule d'ailleurs populaire, l'histoire va toujours plus vite, l'histoire s'accélère. L'histoire n'est pas un personnage. En réalité, ce qui s'accélère, c'est la rotation du Capital.
Ton ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde. Afin d'écraser tout ce qui est petit et fragile, y'a pas de nuit sans journée avortée pis de sang dans les mains. Tu veux juste du gros cash pis des portes coulissantes, des poupées russes pis des montagnes communicantes, des gratte-ciels dans tous les ghettos du monde entier, pis fourrer tout ce qui bouge avec la spéculation. Tu veux modifier les paysages de la planète, remplir les vallées, aplanir les montagnes, jouer avec le chimique pis le nucléaire. Tu suis la logique de détruire avant de construire. T'ouvres les frontières et tu violes la culture avec une gang de gros portefeuilles mercenaires, gendarmes du monde moderne et gestion de crise. C'est la mathématique de l'ovale et du pentagone pour contrecarrer tout ce qui tourne pas rond. Tu peux garder tes poignées de main vers la populace puis ton sourire blanchi comme l'argent qui brasse. Depuis des siècles, où t'as voulu faire de l'homme un animal inhumain pour que tu puisses dormir tranquille sur ton capital. Et c'est avec des bateaux qui venaient d'Afrique que t'as accumulé des Himalayas de gros cash éternel. T'as détruit plus d'un peuple dans ta vie, mais on t'a jamais accusé de génocide. Ton histoire est jalonnée de plein de cadavres, mais ça se fait pas d'accuser la main qui frappe plus fort que les autres. Ton
ambition, c'est d'être plus gros qu'énorme, d'être un éléphant blanc qui marche sur le monde.
On continue avec Daniel Ben Saïd, Marx, mode d'emploi, avec des dessins de Charb. Alors, autre chose concernant Marx, Engels et le communisme, c'est la question de l'individu. Parce qu'on oppose une espèce de masse collectivisée, comme ça, de personnages, d'êtres humains à peine distincts les uns les autres. Voilà, ça, ce serait le communisme. Et puis, on aurait de l'autre côté des personnalités, des personnages, des individus qui se développeraient à loisir. J'exagère à peine, hein. Or, ce que vous rappelez, c'est que dans le manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, ils définissent le communisme comme une association où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous.
Oui, oui.
C'est quand même un élément important, parce qu'on oublie trop ça. Hein. On pense que Marx égale masse.
Ben oui, mais parce que finalement, dans le communisme officiel, enfin en tout cas dans le discours officiel qui a été tenu, on a lu la formule à l'envers hein, souvent. C'est-à-dire que le libre développement de tous conditionne le libre développement de chacun. L'ordre des termes dans la phrase que vous avez citée n'est pas du tout indifférent. C'est bien le libre développement de chacun comme condition du libre développement de tous. Bon, de ce point de vue-là, ce n'est pas si surprenant si on pense que Marx est quand même un héritier en ligne directe de la Révolution française et que le développement de l'individu comme citoyen et comme citoyen autonome, comme citoyen émancipé, émancipé des liens, des rapports hiérarchiques, émancipé de la domesticité, émancipé des rapports de dépendance. Donc, l'existence de l'individu comme individu est un acquis des révolutions modernes. Et Marx, non seulement s'appuie là-dessus, mais veut le prolonger. Donc, et son idéal d'émancipation est effectivement l'idéal d'émancipation individuelle. Il y a un autre texte, bon, mais on ne peut pas les citer tous, dans lequel comment il imagine l'individu en question, libre, c'est le jour où chacun pourra être cultivateur le matin, philosophe l'après-midi et poète critique le soir. Il y a même un côté lyrique, utopique là-dedans. C'est l'être complet qui est enrichi de ses multiples activités. Mais derrière, il y a une idée qui est profonde, c'est que un des critères de progrès chez Marx, c'est pas combien de tonnes d'acier ou de charbon, hein, contrairement à ce que quand il y avait les statistiques soviétiques, c'est le fait que les besoins humains soient de plus en plus diversifiés, différenciés, que chaque individu devienne le plus singulier possible parce qu'il est une composition singulière de besoins particuliers, originaux, etc. Donc, c'est effectivement un idéal individuel. Maintenant, il ne faudrait pas non plus inverser totalement la formule. Hein. L'émancipation n'est pas un plaisir solitaire. Les deux vont ensemble, de chacun et de tous.
Finalement, le communisme du manifeste du Parti communiste de Marx et Engels, est-ce qu'il a existé? Est-ce qu'on peut dire que ce projet, ce rêve, ou cette analyse a déjà été mise en œuvre dans l'histoire?
Non, d'abord, ce n'est pas un projet achevé, ce n'est pas un modèle de société, hein, c'est une ouverture sur le futur, en quelque sorte. Il y a des pistes, mais c'est ce qui fait la différence. Hein, quand il polémique avec les utopistes, il dit « je ne vous livre pas ou je n'essaie pas de dessiner sur plan une société heureuse, clé en main, etc. » J'essaie de voir dans le mouvement de la société les germes de ce qui préfigure, annonce une société future. Donc il ne s'agit pas de décoller, mais il s'agit de faire vivre. Et la définition qu'il donne du communisme, s'il y en a une, c'est pas du tout définir un système. Bon, ça, il se construira par ceux qui le feront, c'est l'auto-émancipation. Mm-hmm. C'est de dire, c'est le mouvement qui abolit l'ordre établi. Donc il n'y a pas là-dessus de modèle de société sur plan. Du coup, ce qu'on peut dire, en revanche, c'est qu'il y a eu des moments, on pourrait appeler ça des moments communistes, d'ailleurs, qui sont des portes entrouvertes sur ce futur-là.
Lesquelles, bon, par exemple, dans l'histoire?
Évidemment, la Commune de Paris, ça, pour Marx, quand il parle de la solution enfin trouvée, etc., bon, c'est que là, il n'a pas cherché à inventer sur le papier, mais voilà, qu'est-ce que les gens ont inventé, réellement, hein. Bon, on pourrait dire que dans les meilleurs moments de la Révolution russe, et malgré la pénurie, si on regarde ce qui s'est fait, y compris dans le domaine culturel, par le mouvement futuriste, les désurbanistes, etc., même sur le terrain même de l'éducation, il y a eu des trucs dans une situation de quasi-guerre civile, disons la séquence 17, il y a des ouvertures. Tout ça dans des conditions de pénurie, de contraintes et parfois d'horreur. On peut dire que les expériences libertaires de Catalogne en 36-37, il y a de ça aussi. Donc, finalement, là, il faudrait faire l'inventaire de ce que les mouvements populaires, ce que, à partir de 52, ont fait les mineurs boliviens, ce que les expériences d'autogestion, y compris des piqueteros en Argentine en 2001-2002, ou les usines d'ailleurs encore en autogestion en Argentine, l'IP. Bon, donc voilà, c'est d'avoir confiance. Ça, c'est ça, les germes de l'avenir, ils sont là, quoi.
Un siècle passé de travail et de crise, un siècle passé de sueur et de fer, un siècle passé comme étant des cerises, un siècle passé à l'ombre de Prévert. Mur gris le long de l'avenue, mur gris de cette usine, mur gris des espoirs déçus, mur gris de poussière et de ruines. Entrer et sortir des milliers de fois et revenir. Entrer, sortir des milliers de fois et repartir. Relève pesante du matin, les outils, le chef, les consignes et le regard de mes copains et ce besoin de rester digne. Peuple du sud, du nord, mêlé, portugais de Mirandela, russe blanc et polonais, rouge et noir venant d'Espagne, garibaldien de Romagne, arabe et sénégalais et des Français de la campagne. La coulée d'acier dans nos veines, la fente grise et la douleur, la lutte, la joie, la grève, la résistance dans nos cœurs.
Quelle est leur popularité de leur vivant? Quel est leur retentissement? Quel est le succès de leur publication, de leurs papiers, de leur...
Je crois que comme publiciste, il y a un écho. Alors maintenant... Il est dur à pondérer. Bon, d'après la presse anglaise, notamment autour de la Commune de Paris, avant, c'est jamais que des émigrés qui ne paient pas leurs notes de boucher, qui ont des emmerdements. Enfin, Marx, parce qu'Engels, lui...
Oui, ça, vous évoquez la vie quotidienne dans la famille Marx, c'était pas...
Ah non, il a perdu 3 enfants, bon, ce qui n'était pas d'ailleurs exceptionnel à l'époque, mais... Et à Soho, il a vécu dans la misère totale. L'histoire des notes de boucher, c'est... Et encore de boucher, on ne mangeait pas beaucoup de viande à l'époque, mais...
C'était Engels qui soutenait la famille un peu.
Et Engels s'est sacrifié. Quand je dis c'est un type sympathique, parce qu'Engels, à mon avis, a des capacités. Ce n'est pas le bon compère, le bon copain, qui justement règle les notes de fin de mois dans les mauvais moments. Mais c'est quelqu'un qui a une œuvre à lui. À 23 ans, il a écrit un livre magnifique, qui est peu réédité en français, qui est « La condition de la classe laborieuse en Angleterre », qui est une sorte de livre publié en 1844, qui est un livre pionnier de la sociologie urbaine et de l'écologie urbaine, sur les questions de santé, de maladie, etc., sur Manchester. Bon, sur les questions militaires et même sur les questions scientifiques, il a dit des bêtises, mais pas que des bêtises. Engels, c'est un grand bonhomme. Bon, bah, il a, en gros, passé plus de 20 ans de sa vie à s'emmerder, parce qu'il le dit, à gérer la boîte. Alors, ça a servi à Marx, parce que comme ça, Engels connaissait comment fonctionne un capitalisme, les rythmes de l'investissement, de renouvellement des machines, etc., etc. Mais, bon, il s'emmerdait, il le dit, et dès qu'il a pu solder la boîte et se livrer à ses travaux littéraires et venir habiter Londres, il l'a fait. Mais
comment est reçu le Capital ?
Bah, le Capital, d'abord, n'a été publié du vivant de Marx que le premier livre. Reçu à l'époque, ça a fait quand même... Il a eu un écho international assez rapide, puisqu'il est paru en 1867. Et en moins de 15 ans, ce qui à l'époque, l'édition n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, était traduit en français du vivant de Marx, en russe du vivant de Marx. Donc le livre 1 du Capital a eu un écho important très vite, hein, dans les milieux socialistes, économistes, etc. Leur notoriété dans les milieux socialisants, elle est importante. Maintenant, on n'est pas à l'époque de la grande médiatisation. Alors c'est en partie la bourgeoisie hein, qui, au moment de la Commune de Paris...
Les communards l'avaient lu, oui.
Il y a une aile communarde. Varlin, etc., sont des lecteurs de Marx. Mais pas tous. Blanqui, pas tellement. Il n'a pas eu trop l'occasion, le pauvre homme... Et puis, il fallait lire l'allemand, souvent. Hein. C'était pas traduit. Je dis, le manifeste communiste n'était pas traduit, a fortiori d'autres choses. Donc, la popularité de Marx, c'est les réunions internationales. C'est la presse anglaise qui s'est acharnée. Hein. Et c'est les expulsions. Tout ça lui a fait de la popularité. Il a été expulsé de France, expulsé d'Allemagne, expulsé de Belgique. Et la presse anglaise l'a rendu finalement populaire en dénonçant le diable.
L'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire tourner. L'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire tourner. L'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est le silence. L'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire tourner. Alors que des gens crèvent de faim, nous avons tout en trop. Nous avons tout en trop. Alors que des gens crèvent de faim, l'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est le silence. L'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est faire le contraire des autres. L'involution, ça veut dire l'involution, c'est l'involution, ça veut dire tourner. L'involution, c'est l'involution, ça veut dire l'involution, c'est le silence.
Con un saludo sincero por el esfuerzo creador, ahora le canto al obrero, proletario, jornalero, en fin al trabajador. Y con alegre tonada quiero decirles a todos, los sindicatos obreros, para lanzarse a la lucha, deben darla de dos modos. Los sindicatos obreros, para lanzarse a la lucha, deben darla de dos modos. Y dos formas de luchar, según es mi entendimiento. Lucha económica una, lucha política la otra, y las dos al mismo tiempo. Lucha económica una, lucha política la otra, y las dos al mismo tiempo. Ay, 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 ay. Lucha económica sí, pero primero entender que esta forma significa luchar por el pan de un día que al otro ha de encarecer, porque al subir el salario también el pan va en subida. Y tanta lucha y porfía solo es por el pan de un día y no el de toda la vida. Y tanta lucha y porfía solo es por el pan de un día y no el de toda la vida. Pero políticamente el triunfo que se consiga ha de ser el socialismo, que es conseguir ahora mismo el pan de toda la vida. Ha de ser el socialismo, que es conseguir ahora mismo el pan de toda la vida. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. No quisiera ver obreros dependientes del patrón, zapatos con media suela, media hambre, media escuela y completa explotación. No obstante que los obreros siempre están creando riqueza, esta no le llega al pueblo porque no es para los obreros, pero sí es para la empresa. Esta no le llega al pueblo porque no es para los obreros, pero sí es para la empresa. Por eso, trabajadores, obreros, asalariados, en pie por el socialismo, que es luchar sin egoísmo por todos los explotados. En pie por el socialismo, que es luchar sin egoísmo por todos los explotados, como lo dijo Marx.
Vous venez d'entendre Como lo dijo Marx, une chanson de Judith Reyes. C'était un entretien de Daniel Mermet dans la Si j'y suis aujourd'hui avec Daniel Ben Saïd, dont nous retrouverons la suite demain, première diffusion le 19 mai 2009. Vous pouvez vous procurer l'ouvrage de Daniel Ben Saïd, Marx, mode d'emploi, aux éditions Zone, à lire également Les crises du capitalisme de Karl Marx, préfacé par Daniel Ben Saïd, aux éditions Démopolis. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique Émissions, là-bas si j'y suis, sur le site la-bas.org ainsi que sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Gilles Gaillard, réalisation Bertrand Chaumeton et Franck Adhérer, attaché de production Marina Touyès, chef du répondeur Grégory Salomonovitch. Le numéro de là-bas si j'y suis, 01 56 40 37 37.
Pourquoi une banque ne récompenserait pas la fidélité de ses clients ?
Chez LCL, les clients fidèles sont des clients privilégiés qui ont droit à plein d'avantages. C'est écrit dans notre contrat de reconnaissance.
Avec le contrat de reconnaissance LCL, demandez à votre argent. Voir conditions en agence ou sur lcl.fr.
En pleine incertitude économique, l'affaire annonce un taux net de 3,43% pour le fonds garanti. Un taux serein, un taux solide. L'affaire, la référence en assurance vie, c'est près de 735 000 adhérents qui nous font confiance. Rejoignez l'affaire auprès d'un conseiller ou en vous connectant sur afer.fr. Affaire, le refuge pour votre épargne.
Excellent après-midi à l'écoute de France Inter, il est 16h. Et les informations vous sont présentées par Laetitia Gaillet. Bonjour.
Bonjour. Une fillette de 2 ans a été retrouvée saine et sauve hier soir après avoir passé 2 jours dans un ravin près du corps de sa mère. L'information a été donnée aujourd'hui par nos confrères de France Bleu Drôme-Ardèche. Apparemment, sa mère a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage du côté de Pézac en Ardèche. La voiture a fait une chute de 40 mètres. La mère est donc morte, mais la fillette a survécu. Quand elle a vu les gendarmes, elle a pleuré et tendu les bras vers la gendarme. Elle était en état d'hypothermie avancée. Dans l'affaire du Carlton de Lille, René Kopfschwer, l'homme chargé des relations publiques de l'hôtel et mis en examen pour proxénétisme, a été remis en liberté aujourd'hui. Protéger les données personnelles sur Internet. La Commission européenne a présenté aujourd'hui une proposition de loi qui suscite déjà la critique. Il impose aux grands groupes de l'Internet d'obtenir le consentement préalable des personnes pour l'utilisation de leurs données personnelles sous peine d'amende. En gros, le texte vise à introduire le droit à l'oubli numérique, ce qui obligera notamment les réseaux sociaux à supprimer les données personnelles, photographiques ou autres, des utilisateurs qui le demanderont. Par ailleurs, la Commission européenne, toujours elle, a fait le tri aujourd'hui dans les aides accordées aux opérateurs postaux. Le gendarme de la concurrence a ainsi sanctionné aujourd'hui les postes allemandes et belges. Il exige qu'elles remboursent les aides publiques versées. En revanche, il a épargné la poste française qui a récemment bénéficié d'une aide de près de 2 milliards d'euros. Les Allemands dénoncent aujourd'hui le deux poids deux mesures de cette décision. La Confédération européenne des syndicats appelle aujourd'hui à une journée d'action européenne le 29 février prochain. Ce sera la veille d'un sommet des dirigeants européens consacré au nouveau traité visant à renforcer la discipline budgétaire de l'Union. Pour Petroplus, il y a le site de Petit-Couronne en Seine-Maritime que le groupe de raffinage suisse veut vendre. Et il y a celui de Reichstätt dans le Bas-Rhin. Pour ce dernier, on apprend aujourd'hui qu'il est en cessation de paiement. Il a demandé son placement en redressement judiciaire. Reichstätt emploie près de 80 personnes. Le site est à l'arrêt depuis avril dernier. Une audience à la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg est prévue lundi prochain. Les autorités sanitaires françaises ont lancé aujourd'hui un nouveau système de surveillance de la grippe. Ça s'appelle GrippeNet. Comme le nom laisse supposer, ça fonctionne sur Internet et chacun pourra ainsi apporter sa contribution. Toute personne qui le souhaite, malade ou non, mais résident en France, devra remplir chaque semaine un questionnaire récapitulant les symptômes qu'ils ont eus ou non depuis leur dernière connexion. C'est sur grippenet.fr. Que ceux qui veulent profiter des Jeux Olympiques de Londres pour frauder se le disent, la police britannique veille. Une centaine de personnes ont déjà été arrêtées en Grande-Bretagne, a déclaré aujourd'hui la ministre de l'Intérieur britannique, Theresa May. Les arrestations concernent notamment la revente de tickets pour les Jeux au marché noir, le développement de faux sites internet et la réservation de fausses chambres d'hôtel. Enfin, on connaîtra demain la décision de la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby sur le cas de Mourad Boudjelal. Le président du club de Toulon a comparu aujourd'hui pour ses récentes déclarations sur sur l'arbitrage. Le 8 janvier dernier, après la défaite de son équipe à Clermont, Mourad Boudjelal avait publiquement parlé de sodomie arbitrale. C'est joli, il risque du simple blâme à la radiation. Vous écoutez France Inter, 16h03.
France Inter et L'Express, partenaires du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, du 26 au 29 janvier avec la FNAC et la Caisse d'épargne. Le plus grand événement de la bande dessinée vous invite à découvrir le meilleur du 9e art. Retrouvez Les Affranchis d'Isabelle Giordano en direct et en public d'Angoulême, espace Franquin, le jeudi 26 janvier à partir de 11h. Le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, du 26 au 29 janvier. Renseignements sur franceinter.fr.
France Inter présente
My friends think just because I live in Hawaii, I live in paradise.
The Descendants, le nouveau film d'Alexander Payne avec George Clooney. 5 nominations aux Oscars, dont meilleur film et meilleur acteur. Actuellement au cinéma. Hawaii. Lorsque sa femme se retrouve à l'hôpital, Matt, un père de famille indifférent, se rapproche de ses filles et ouvre les yeux sur le monde qui l'entoure. The Descendants, avec George Clooney, le portrait drôle et émouvant d'un homme déstabilisé. Un road movie intime entre le passé et l'avenir. Retrouvez The Descendants dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
France Inter. La différence.
Bonjour Frédéric Lodéon, c'est à vous.
Bonjour Laetitia.
Carrefour de l'Odéon.
Bonjour à tous, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce disque Jean-Sébastien Bach, ici même, par exemple, ça s'appelle Symphonia, donc ce sont les pièces instrumentales des cantates de Bach. Et oui, si Bach n'avait pas dû écrire pour les services religieux, peut-être aurait-il écrit de la musique instrumentale en plus grande quantité, on ne sait pas. En tout cas, c'est assez intéressant de nous donner ces échantillons. Et pour prouver que chez lui, il n'y avait pas vraiment de partage, il n'y avait pas de barrière entre sa pensée mystique, je veux dire, sa pensée religieuse, et puis sa pensée purement musicale. Voici une symphonia, donc une petite ouverture d'une cantate dont le titre est « Nous te remercions Seigneur ». Il faut savoir que Jean-Sébastien Bach s'en est servi dans une autre numéro de catalogue 120, ça c'est la 29-120, et puis encore après il s'en est servi pour écrire le prélude d'une troisième partita pour le violon. Eh oui, il savait recycler le père Bach.
Thank you.